BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel.
Et un grand bonsoir à toutes et à tous, un grand merci d'être là, merci d'être fidèle à BFM Business et merci aussi de suivre Tech & Co, la quotidienne. Chaque soir, vous le savez, on est là, 19h30, 21h, la radio, la télé, les replays, les podcasts et du lundi au vendredi. Voilà, notre petit séjour à VivaTech se termine, nous voilà de retour sur notre plateau ici à BFM Business et on est ravis de vous retrouver pour Tech & Co et évidemment décortiquer, analyser toute l'actu tech du jour avec au sommet en ce mardi 23 juin, eh bien on va revenir sur cette actu intéressante concernant Meta qui va lancer des lunettes moins chères que celles que l'on connaît aujourd'hui avec notamment Ray-Ban ou Oakley. On en parle dans quelques secondes. Et puis on évoquera aussi cette décision du gouvernement de proposer à partir de la rentrée 2027 une heure d'IA par semaine pour les lycéens à partir de seconde. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? Tiens, là aussi on va débattre. Et je recevrai tout à l'heure une start-up intéressante entre la Silicon Valley et Paris. Il s'agit de Genesis AI qui va apporter de l'intelligence en fait aux robots, toute une histoire. Est-ce que c'est possible? Tiens, c'est la question qu'on posera notre invité tout à l'heure. Voilà le sommaire de ce Tech & Co quotidien. Merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Et oui, Tech & Co, la quotidienne, on débriefe ensemble l'actu tech avec ce soir sur le plateau. Eh bien, nous avons Frédéric Krebs. Salut Fred.
Bonsoir François.
Ravi de te retrouver Frédéric. Frédéric qui est président de Krebs & Partners. Tu as été aussi le patron d'Allociné pendant plusieurs années. Tu as travaillé aussi dans des grands studios de ciné hollywoodien, je crois. Merci d'être là parce que l'actualité en plus va t'intéresser tout à l'heure. On va évoquer un sujet qui, je le sais, te tient à cœur. À tes côtés, c'est André Losgood-Pietri qui est là. Salut André.
Salut François.
André qui est le président du JEDI, le Joint European Disruptive Initiative. Est-ce que tu étais à VivaTech?
Bien sûr.
Pas mal quand même.
Ah, c'était très bien.
Intéressant, souveraineté, des boîtes formidables. Tiens d'ailleurs, je fais un peu ma pub. Sachez que la semaine dernière, nous étions à VivaTech. Vous pouvez retrouver tous les replays, tous les podcasts de cette émission avec des invités quand même assez prestigieux. Hein. Le patron d'ASML qui était sur notre plateau et qui expliquait eh bien le rôle incroyable de cette boîte européenne qui eh bien régit en quelque sorte toute l'électronique mondiale. Hein. Il faut quand même être fier de tout ça. Et on a eu aussi un porte-parole d'OpenAI et beaucoup d'autres invités. Donc à retrouver en replay sur BFM Business, mais aussi sur la chaîne YouTube de BFM Tech. Et Lucas Perraudin est avec nous aussi. Salut Lucas.
Bonsoir François.
Fondateur de AI Partners et auparavant tu étais chez Meta.
AI to Market. On a rebrandé il y a longtemps.
Ah bah attends, oui.
Écrit là.
AI to Market et non pas AI Partners. Voilà. On a fait la petite correction. Et auparavant, je le disais, tu étais chez Meta et tu avais un poste très élevé au niveau européen pour tout ce qui touchait à l'AR et la VR chez Meta. Merci d'être là tous les trois. On va commencer par justement Meta. Ça tombe bien, petite dédicace. Meta qui lance sa propre gamme de lunettes connectées pour atteindre un plus large public. L'objectif est également de conserver son avance sur Google et bientôt aussi Apple, puisque on le sait, Apple est dans les starting blocks. En fait, Meta qui a manqué le virage du smartphone ne veut pas manquer celui des lunettes IA. Frédéric Simotel nous explique tout ça et puis on revient après sur ce plateau.
C'est un peu ça. Jusqu'ici, avec Ray-Ban et Oakley, le modèle était assez simple. Hein. Et si leur Luxottica apportait ses marques, son design, tout le circuit logistique, la distribution et la légitimité sur le marché de la lunetterie. Et Meta apportait la technologie, caméra, audio et la plateforme d'intelligence artificielle. Mais l'Américain se sentait un peu à l'étroit dans ce partenariat. Mark Zuckerberg a plusieurs fois tenté de faire baisser les prix, mais l'industriel européen restait campé sur ses positions. Avec les Meta Glasses, Meta dispose enfin de sa propre gamme de lunettes connectées en associant l'influenceuse Kylie Jenner au design, il cherche à atteindre un public beaucoup plus large et ne veut plus être seulement le fournisseur de technologies caché derrière les Ray-Ban. Il veut en contrôler davantage le design, les formes, les couleurs, les collaborations et surtout les prix. Hein. On parle d'une gamme à $300. Et enfin, le positionnement marketing. À l'instar d'Apple, Meta se comporte autant comme une marque de mode que comme un fournisseur de technologies. Pas d'ambivalence en outre avec Essilor Luxottica qui lui apporte l'outil industriel, les usines, le savoir-faire optique, le réseau mondial d'opticiens. Clairement, le géant américain veut capter et maîtriser une partie de la valeur matérielle en vue des batailles futures face à Google, Apple et des acteurs chinois. Il veut reproduire avec ses lunettes IA ce qu'Apple a réussi avec l'iPhone.
Voilà donc pour ces explications signées Frédéric Simotel. Alors, on va commencer par toi, Lucas, parce que évidemment c'est un sujet que tu connais bien. Tu as travaillé longtemps chez Meta. Tu connais un petit peu l'ADN de cette boîte-là. Logique, a priori, hein, de se dire que bah, finalement, on est parti sur le très haut de gamme et comme toujours, on ruisselle pour que cette technologie de lunettes connectées, qui visiblement a l'air de prendre, bah, puisse toucher le plus grand nombre.
Effectivement, logique. Peut-être par souci de transparence, je veux aussi expliquer que AI to Market, Meta au niveau global pour leur stratégie wearables, donc lunettes, et notre client, et Essilor aussi.
Voilà.
Donc on a un doigt dans chaque dans chaque
clair,
prise, ça... juste pour être clair. Et donc je veux pas de langue de bois, mais je préfère que les gens sachent d'où je parle.
Et en gros, ouais. En gros, pour tout vous dire, Lucas, c'est plein de trucs dont il ne peut pas parler ce soir. Concernant le futur de Meta, etc.
Voilà, donc voilà. Je veux éviter de perdre tout mon patrimoine. Non, mais de toute façon, enfin, comme d'habitude, on va être très transparent. Donc, logique, oui, pour une couverture de marché. Alors, ces produits, ils sont hybrides. Parce que des lunettes, c'est un produit optique et un produit consumer electronics à la fois. C'est un produit d'électronique.
Oui.
Et donc, il faut être présent sur les deux marchés. C'est extrêmement compliqué. En gros, si on veut remplacer les téléphones mobiles par des lunettes connectées, 50% des humains ont besoin de correction. Donc, on a besoin d'être dans les canaux de correction, etc. Et ça, c'est une distribution qui est très compliquée. Enfin, la logistique pour que vous ayez vos lunettes avec de la bonne correction en 24 heures, elle est monstrueuse. La supply chain derrière ce truc-là, c'est monstrueux. Donc, on est obligé de s'associer. Et puis, il n'y a pas beaucoup d'autres acteurs dans le monde que Essilor. En fait, c'est le prochain concurrent qui a ce niveau d'accès au marché. Il est un sixième de la taille. Donc, il faut forcément y être. Mais aussi, on parlait d'Apple, on parlait de Google. Ces gens-là viennent, eux, du marché du consumer electronics, de l'électronique grand public. Et donc, il faut être présent dans ces magasins-là. Il faut avoir des prix qui soient adaptés, des façons de gérer, comme disait tout à l'heure dans le reportage, le marketing, la promotion qui soit de ce domaine-là, c'est plus réactif, il y a plus de changements, il y a plus d'adaptation de prix, il y a plus de variations dans le temps. Les lunettes, ça coûte à peu près le même prix toute l'année. Il y a du Black Friday, il y a tout un tas de promotions dans le consumer électronique qu'on peut pas répliquer. Donc ça permet aussi d'avoir cette flexibilité, cette couverture de marché, et c'est vraiment ça qu'ils sont en train d'essayer d'avoir, parce qu'effectivement il y a énormément de lunettes qui sont vendues.
Et si l'or ne sera pas véritablement mis en avant comme il l'est mis aujourd'hui avec Ray-Ban, c'est presque une marque blanche là dans ce cas précis.
C'est une marque propre, c'est une marque Meta.
D'accord.
Annoncée.
Et c'est Meta qui a confié la fabrication de ces lunettes à Essilor.
A priori, c'est Meta qui fabrique.
Non, c'est Essilor.
C'est
Essilor Exotica.
Ok.
Les deux marques, les deux marques sont au sein des lunettes, quand tu regardes
sur
au niveau des branches.
Sur ce modèle
à l'intérieur.
Ok.
Bon, alors, intéressant, bien sûr. Est-ce que tout cela est pertinent? Qu'est-ce que vous en pensez, Fred, et puis après André?
Bah moi je salue. Enfin, si je prends un pas de recul hein, sur toute l'histoire en fait de ces lunettes connectées, moi je trouve que Meta a fait des coups de maître au niveau marketing. C'est-à-dire que faut quand même se souvenir d'un truc, hein, c'est qu'on part d'une situation où Google avait lancé en 2015 la fameuse Google Glass.
Oui.
Qui avait été un four complet avec une vraie défiance de la part des utilisateurs hein, qui n'en voulaient pas parce que c'était trop intrusif, c'était trop visible parce que c'était un gadget. Google avait lancé en fait un gadget et les gens n'ont pas adhéré du tout au principe. Ensuite il y a Snapchat, hein, Snap qui lance toujours donc les Spectacles qui sont aussi des lunettes connectées
et qui vient de lancer ces nouveaux, enfin qui s'apprête à lancer ces nouveaux modèles.
C'était très mal reçu par le marché, ouais, effectivement. Parce ils sont loin de l'objectif en termes de d'encombrement, de qualité, etc. Ça fait tanquer l'action littéralement la semaine dernière. Ils sont loin derrière.
Ouais. Ouais, non, c'est vraiment loin derrière. Donc, Snap n'est pas réussi en tout cas à diffuser en fait ces lunettes, en tout cas au niveau des objectifs attendus. Et là où Meta a été extraordinairement malin, c'est que ils ont utilisé la plateforme donc Essilor Luxottica, ils ont utilisé les marques Ray-Ban et Oakley en fait pour pouvoir injecter en fait leur savoir-faire technologique. Et là, l'acceptation a tout de suite, c'est tout de suite matérialisé. Et avec aujourd'hui, alors je connais pas exactement le nombre exact d'exemplaires qui ont été vendus dans le monde, mais on parle de plusieurs.
On parle de 7 millions.
Ouais, voilà, de 7 millions. Donc c'est un véritable succès. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que comme ils savent que Apple va arriver en fait sur le marché et que d'autres vont arriver sur le marché en fait des lunettes connectées, ils passent par un prix beaucoup plus bas pour en fait rincer le marché et en fait avoir la primeur et la force en fait d'être présent sur ce marché.
C'était
en fait
la stratégie sur la VR aussi. Hein. Quand le Pro Vision Pro est sorti, yeah. La première chose qu'a fait Mark Zuckerberg, c'est faire une vidéo en disant si vous regardez les spécifications d'une autre et le prix, c'est mieux pour un tiers du prix. Ça ne change rien à l'attrait de la marque, etc. Donc ça c'est vraiment la stratégie de Meta, l'accessibilité en fait à tout le monde et couvrir le marché de manière extensive.
Donc voilà, oui, c'est vrai qu'il y avait un petit flottement, mais je te confirme qu'elles sont bien fabriquées par Essilor Luxottica, même si la marque n'est pas véritablement mise en avant, c'est-à-dire que c'est pas les lunettes emblématiques comme les Ray-Ban ou les Oakley.
Non, c'est un peu la, tu parlais de marque blanche, François, c'est un peu la marque blanche inversée, c'est-à-dire que normalement dans la grande distribution distribue des produits premium avec des marques dans les différents domaines et fait produire par ces mêmes producteurs à sa propre marque, c'est souvent l'entrée de gamme. Là, ce qui est assez intéressant, et je suis complètement dans la lignée de ce qui vient d'être dit, c'est que Meta, d'abord, s'est appuyé sur des gens qui savaient faire des lunettes et surtout, ça a été vraiment un défi d'engineering, notamment l'équilibre, de pouvoir mettre les semi-conducteurs, la batterie et tout ça de manière assez équilibrée sans que ça soit gros. Ça, c'était vraiment une prouesse de hardware et ils ont raison de continuer à bâtir sur le savoir-faire de Luxottica. Ensuite, ils ont une stratégie classique de il y a un entrée de gamme pour qui sera à la marque Meta, il y a le premium qui reste Ray-Ban et Oakley. Non, c'est assez malin et ils ont l'intelligence de garder la distribution qui, comme tu l'as dit, est extrêmement complexe.
L'accès, market access
dans ce domaine.
La
vraie question, c'est est-ce que si véritablement les Européens avaient un tout petit peu plus de courage, pourquoi est-ce que Luxottica ne se dit pas attendez, je suis dans l'hardware, pourquoi j'essaye pas, c'est une occasion en or de rentrer ou du moins d'apprendre. En fait, ce que fait Meta, c'est une stratégie qu'ont fait les Chinois pendant 30 ans. Une stratégie de joint venture, on apprend et maintenant on lance son propre modèle. Donc il y a quand même un vrai risque à terme, peut-être pour Luxottica, de se retrouver finalement des fournisseurs de quelque chose qui aura été commoditisé après avoir été très difficile.
Et c'est vrai qu'André a raison finalement, excuse-moi je te coupe, mais c'est pas le plus compliqué. Enfin aujourd'hui, tu vas voir des industriels chinois ou même tu mets quelques milliers d'ingénieurs pendant quelques mois, ils arrivent à te fabriquer ça. Tu vois.
Alors oui, mais il a fallu mettre 14 milliards sur le problème pendant 8 ans avant que ça devienne une commodité et que tout le monde sache comment intégrer tout ça. Parce que la recherche-développement open source, c'est Meta qui l'a fait. Moi, j'ai visité les labs il y a très longtemps. Il y a tout un tas de choses qui sont mainstream maintenant, qui ont été copiées et reprises, qui n'existaient pas, qui ont été inventées par les équipes Meta pour que cette technologie devienne omniprésente. Et l'idée, c'est aussi, dans la tête de Zouk, c'est que on va remplacer iOS avec MetaOS, donc qu'on soit l'operating system et l'App Store de ces choses-là. Il y a quand même un point qui est hyper important, on parlait des Google Glass, etc. Il faut quand même, il y a un truc qui a permis cette propagation de la technologie, c'est que c'est les LLM, parce que finalement, ces lunettes, elles n'ont pas d'écran aujourd'hui. C'est des assistants multimodaux, on peut discuter avec elles. En gros, c'est ChatGPT à l'intérieur des lunettes.
Il y a un modèle qui est disponible aux États-Unis,
oui,
qui n'est pas disponible.
C'est un modèle
en
de niche. Après,
ouais, qui est un peu expérimental,
ouais,
on va dire.
Exactement. Mais en fait, les millions d'unités dont on vient de se parler, on est passé de VR à AR, qui était le seul plan, donc avoir des écrans face à nous, à ce que l'IA générative a permis, c'est d'avoir ce produit intermédiaire avec uniquement des caméras, des micros et des haut-parleurs, donc pour capter et discuter, qui permettent de mettre des lunettes sur la tête des gens, d'apprendre plein de trucs sur les usages en attendant que les écrans soient prêts. Donc il y a quand même une rupture technologique au milieu. C'est
en fait, on a simplifié, mais on peut se dire que la prochaine génération intégrera peut-être des modèles.
Les écrans, ça arrive.
Ça va être intéressant de
plus frugaux.
Ce que tu dis, c'est que est-ce que finalement, Essilor Luxottica va s'émanciper de Meta pour fabriquer elle-même son hardware.
Juste un petit mot, alors c'est plus compliqué, c'est beaucoup plus compliqué que ça. La technologie est extrêmement compliquée. Qui fabrique les outils, qui a les lignes, c'est beaucoup plus imbriqué que ça. C'est très compliqué à démêler, à dire l'un fabrique, l'autre fabrique. C'est vraiment un partenariat sur long terme, et ça nécessite. On va dire que la partie électronique, c'est pas non plus le cœur de métier des sealers traditionnellement. Donc il a fallu que.
Oui, mais c'est pas le cœur de métier de Meta aussi au départ.
Avec le rachat d'Oculus et de tout le travail qui a été fait, Meta est arrivé avec beaucoup plus d'ancienneté, de moyens, et puis aussi avec les investissements colossaux qui ont été faits. Donc dans le partenariat, cette partie technologique, elle est quand même très importante de la part de.
Je serais très curieux de savoir si Luxottica met des moyens aujourd'hui pour apprendre extra. C'est une opportunité en or pour eux de monter dans la chaîne. Alors c'est sûrement très compliqué, mais sur la miniaturisation des batteries, sur les potentiellement les écrans, etc.
Les antennes,
c'est extraordinaire.
Ouais. Et puis est-ce que un jour Essilor Luxottica va pouvoir avoir d'autres partenaires technologiques que Meta finalement. Est-ce que cette exclusivité, ce mariage entre ces deux géants va durer de manière indéfinie? Est-ce que il a été, on va dire, signé pour une période bien donnée? C'est ça qui est intéressant.
Ce qui est intéressant, c'est la balance du pouvoir. Paradoxalement, Essilor a beaucoup de pouvoir dans cette conversation, parce qu'encore une fois, pour pouvoir mettre des lunettes correctrices sur la tête de l'humanité, il faut avoir un réseau de distribution qui soit près des gens, avec une capacité de correction. Tout ça, ça veut dire qu'il y a des laboratoires,
c'est le métier,
cuisines.
Dont c'est le métier.
Ouais. Voilà. Et c'est un métier très particulier, et dans lequel il y a beaucoup d'inertie. En fait, la barrière d'entrée dans cette distribution-là est très grande, et Essilor a une énorme part de marché. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas
c'est quand même
le déséquilibre habituel.
Quoi. Ouais, là, c'est deux géants, là.
Et donc, Essilor, c'est une bonne mariée pour plein d'autres boîtes de.
Et d'ailleurs, il paraît qu'il y a des tensions entre les deux. Enfin, je veux dire, il paraît que c'est pas tout le temps un chemin tranquille.
Sans commentaire.
C'est peut-être un vrai mariage entre égaux dans ce cas-là. C'est ça. Il y a donc des tensions.
Pour terminer sur ce sujet.
Est-ce qu'on a un peu des retours sur l'utilisation effective, en fait, de ces lunettes?
Alors moi, je peux te le dire, moi, j'ai la chance d'avoir une paire que je ne mets pas très souvent, j'avoue, parce que j'ai un problème, c'est que l'autonomie n'est pas bonne. Et aujourd'hui, moi, mes lunettes, parce que j'en ai vraiment besoin au quotidien, je les porte du moment où je me lève jusqu'à ce que je me couche, et l'autonomie de ces lunettes tu peux pas tenir une journée. Et deuxième chose, au bout de quelques heures, je sens quand même le poids des lunettes sur mon nez, en tout cas sur l'arête de mon nez. Alors peut-être qu'elles sont mal réglées, etc. Hein, je dis pas, mais voilà, c'est pas aussi fluide qu'une paire de lunettes toute simple. Voilà. On referme la parenthèse et on enchaîne avec une autre grosse actu liée aux médias. Ça a été le top départ, hein, il y a quelques heures, pour le deal entre TF1 et Netflix. Après l'annonce, il y a un an, de l'accord de diffusion des programmes du groupe sur la plateforme américaine. Et ça y est, il est désormais possible de regarder Koh-Lanta, The Voice et autres programmes phares de la chaîne sur Netflix, après avoir regardé Tech & Co, bien sûr. Hein, toujours Tech & Co en priorité, BFM Business. C'est une première au monde, ce partenariat, qui pourrait ouvrir la porte d'ailleurs à d'autres partenaires entre Netflix et des chaînes. Nathan Cocampo nous raconte tout ça.
35 000 heures de programme s'ajoutent au catalogue de Netflix. Les grands classiques de TF1, Koh-Lanta, The Voice, Massinger, des séries à succès comme HPI avec Audrey Fleurot, mais également les journaux, émissions d'information de l'ensemble des chaînes du groupe, notamment LCI. Un deal gagnant-gagnant selon TF1, qui cherche toujours plus à élargir son audience en captant les plus jeunes. Le groupe français profitera aussi d'une plateforme reconnue pour sa fluidité et son ergonomie, qui pousse à la consommation. Côté Netflix, la quête d'un catalogue de plus en plus riche et diversifié est un poids de taille pour récupérer des abonnés. Un partenariat logique pour les deux géants, habitués aux coproductions de séries ensemble, comme Tout pour la Lumière, et qui s'inscrit pleinement dans la tendance actuelle des chaînes de télévision. France Télévisions est hébergée chez Amazon Prime et vient de nouer un partenariat de diffusion avec YouTube. M6 est sur Amazon aussi. La chaîne L'Équipe est sur Disney+. Netflix, qui ne ferme pas la porte à d'autres accords du même style avec d'autres chaînes traditionnelles dans d'autres pays. Des mots de son PDG Greg Peters, le partenariat avec TF1 pourrait servir de modèle.
Voilà, reportage signé Nathan Cocampo sur cette actu qui est média, qui est très importante. Déjà, premier partenariat entre Netflix et un vieux média, c'est quand même assez intéressant. Alors toi qui as travaillé chez Allociné, qui suit évidemment l'actualité des médias et la transformation des médias depuis pas mal de temps, qu'en penses-tu?
Eh ben alors il y a plein de façons de voir ce deal. Il y a plein de façons de voir ce deal. Il y a une façon négative, il y a une façon positive. On va discuter de ça là maintenant. Il faut juste quand même remettre un peu tout ça dans son contexte. Hein. C'est-à-dire que quand Netflix arrive en 2014, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait fait une émission d'ailleurs ensemble en septembre 2014, toutes les chaînes de télé classiques disaient attention, c'est les Américains qui débarquent.
C'est l'ennemi public numéro
c'était
un.
C'était l'ennemi public
bien
numéro
sûr,
un.
Évidemment.
Même avec un petit peu d'arrogance, un peu de mépris hein, de la part de ces. Ouais, vous ne faites pas de direct, vous ne faites pas d'infos.
Et les patrons de ces chaînes montaient au créneau en disant ils sont en train d'acheter tous les droits de toutes les séries, etc., qu'on ne peut pas diffuser. C'était la guerre.
Exactement, exactement. Donc un peu de mépris, et c'est pour ça que c'est un peu drôle maintenant, 12 ans plus tard,
de voir que la
boucle se boucle finalement. Mais entre-temps, il y a eu quand même des initiatives de la part de toutes ces chaînes. Hein. On se souvient de Salto, par exemple. Hein. La tentative que TF1, M6, France Télévisions ont essayé de se mettre d'accord pour lancer une sorte de contre-Netflix
qui a été fait à reculons, n'importe comment.
Après, c'est toujours très compliqué dans le monde des médias.
C'est facile de commenter un échec, mais bon.
Voilà, ils ont tenté le coup. Ils ont tenté le coup et ça a été lancé en 2020. Ça a fermé en mars 2023. Il y a eu, en mars 2023, je crois que c'était aux alentours de 500 000 abonnés payants. Faut pas oublier que de l'autre côté, aujourd'hui, Netflix est en France, c'est 15 millions d'abonnés payants. C'est 30 millions de spectateurs uniques par mois, Netflix. Donc c'est ça aussi que TF1 va chercher. Donc voilà, donc Salto, ils ont pas réussi à lancer un truc solide, ça a fermé. Ensuite, faut pas oublier que TF1 et M6 ont essayé de se fusionner. Là, pour des raisons, on va dire, de régulation, ça n'a pas pu se faire. Donc ils ont quand même essayé de se battre.
Pour l'instant, pour l'instant, parce que le sujet est toujours... plus ou moins d'actualité.
Ouais, mais j'ai pas l'impression que ça va avancer.
Tu verras dans 2-3 ans. Quand les obligations d'RTL, parce que vous savez que le groupe, c'est quoi, c'est Bertelsmann.
Bertelsmann.
Voilà, ils sont obligés d'attendre, je crois, encore 4 ans suite à l'autorisation des fréquences TNT qu'ils ont eues. Ils sont obligés d'être encore actionnaires du groupe M6 et de RTL pendant 4 ans. Mais dans 4 ans, rien ne leur empêche de revendre tout ça. Donc on en reparlera.
Ouais, mais il faut pas oublier que là, c'est TF1 et M6 qui ont abandonné en fait l'idée de fusion.
Hein. Oui.
Pas une demande du régulateur. Et ensuite, TF1 a lancé en 2024 TF1+. Là aussi, tout seul en solo, leur propre plateforme et donc avec l'essentiel des contenus qu'on va voir sur Netflix, enfin qu'on voit maintenant sur Netflix. Donc c'est assez marrant qu'aujourd'hui, Rodolphe Belmer, donc le patron de TF1,
qui a été au bord de Netflix auparavant.
Absolument,
il faut quand même
faciliter.
Voilà, il faut quand même. C'est aussi une histoire d'homme de tout ça. C'est ça qui est intéressant, c'est que Rodolphe Belmer travaillait pour Netflix avant d'être patron de TF1. Donc je pense qu'il avait ses connexions et qu'il a aussi insufflé ce partenariat.
Et je pense à raison parce que en fait le travail de TF1, c'est de maximiser ses audiences pour l'ensemble des contenus qu'il produit. Et ça, je pense que c'est un bon deal. En tout cas, c'est un deal intelligent, on va dire, sur le court terme, parce que il y a tout un ensemble énorme, un bassin d'audience énorme, notamment chez les jeunes qui ont l'habitude de regarder Netflix régulièrement. Ce deal-là est important pour TF1. C'est un deal qui est même pas défensif. Au contraire, que je trouve offensif, et c'est une première mondiale. Bravo Rodolphe Belmer, c'est un sacré coup. Derrière ça quand même, il faut pas oublier que dans 5 ans, dans 10 ans, comme la plupart des gens auront l'habitude de rester peut-être sur Netflix pour regarder du TF1 quelque part, et si Netflix décide de changer son algorithme pour une raison ou pour une autre, de changer
dire merci beaucoup TF1, c'était sympa, mais on arrête notre partenariat.
Exactement.
Et rappelons que la TNT est en train de décliner, qui est on va dire l'un des principaux canaux de diffusion de la télévision. On se rend compte que la TNT est de moins en moins utilisée par les box, par les plateformes de streaming, etc. C'est vrai que c'est quand même un risque.
C'est le risque majeur. C'est que l'habitude soit complètement prise. Il y a une habitude encore plus forte qui est prise aussi avec YouTube, parce que qui reste aussi le diffuseur le plus important, notamment si on regarde les dynamiques aux US. Donc ici en France, voilà, ça va être un pli qui va être pris dans ce sens-là. Et donc on verra bien si ce pari est gagnant en fait sur le long terme. sacré pari.
Ouais, rappelons hein, quand même que si vous avez Netflix, peut-être l'avez-vous vu depuis quelques jours, vous appuyez sur un bouton, vous avez tout TF1. C'est bizarre hein, quand même. Hein. C'est étonnant. D'ailleurs, c'est un peu perturbant parce que moi, typiquement, j'ai un abonnement sans pub de Netflix et je me retrouve avec du contenu TF1 financé par la... Enfin, où il y a de la pub, je veux dire, je trouve que ça dégrade un peu aussi l'expérience utilisateur que tu peux avoir pour Netflix, que tu payes cher maintenant. Je paye très cher pour avoir un compte premium, etc. Donc c'est pas transparent.
Ce qui va être clé, c'est la mesure publicitaire. C'est-à-dire que si Netflix expose à ses 30 millions de spectateurs uniques ou téléspectateurs uniques, il faut que TF1 soit capable d'attribuer ses téléspectateurs aux publicités qu'ils diffusent pour pouvoir monétiser ça. C'est aussi une manne publicitaire si le flux marche bien pour eux.
Ouais, mais quand tu payes, je sais pas moi, 20 balles par mois pour avoir Netflix,
ça dégrade l'expérience.
En premium, voilà, et que tu te tapes toutes les pubs de TF1.
Juste une question.
C'est un peu
violent. Donc moi j'habite en Angleterre, j'ai vu l'accès depuis là-bas. Normalement, ça doit pas être possible, mais j'ai vu en tout cas la
ouais, mais parce que t'as un VPN, t'es un bidouilleur.
Pas du tout. Et j'ai vu autre chose qui m'a marqué, c'est que je vois M6 sur Amazon Prime.
Oui,
je sais pas si c'est exclusif aux gens qui sont à l'extérieur de la France ou si en France aussi. Donc, par exemple, la Coupe du Monde en français, M6, je la vois sur Amazon Prime, moi.
En Angleterre.
Ouais.
Et ça, c'est bizarre parce qu'en théorie, ça devrait pas marcher.
C'est étonnant.
Il y a des problèmes de droit. Normalement, tu devrais pas y accéder en Angleterre.
Ça marche.
Parce que, et d'ailleurs, ce deal TF1 Netflix n'est valable qu'en France.
En France,
tu sors des frontières françaises, ça ne marche plus. Tu regardes un petit peu ce qui s'est passé.
Ça devait être dans le tunnel sous la Manche.
C'était une histoire de VPN.
Une histoire de VPN, ou alors c'est parce que tu as créé ton compte peut-être en France,
oui,
que Netflix ou Prime te considèrent comme français, même si tu es en Angleterre. Il y a peut-être un truc comme ça, mais en tout cas, tu as un compte Prime anglais et un Netflix anglais, t'as pas TF1 et t'as pas.
Et donc M6 Prime, ça existe aussi.
Oui.
C'est aussi une tendance.
Oui, c'est vrai. Ça fait moins de bruit, mais c'est vrai que Prime, et je crois qu'ils ont France Télé aussi.
France Télévision,
oui. André, t'as suivi tout ça, bien sûr.
Alors, non, pour moi, je pense que c'est quand même un sujet assez défensif. Le coût pour TF1, c'est de rajeunir son audience, ça c'est très clair, d'accéder à cette manne de 30 millions. Là, la dépendance, enfin, on parlait du fait que tout à l'heure que Meta s'affranchissait de Ray-Ban, mais ça sera probablement la même chose qui va se passer. À un moment, TF1 va devenir massivement dépendant de l'algorithme utilisé, et c'est finalement Netflix qui va décider ce qui remonte ou pas comme contenu. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, on vient de dire avec M6 et France Télévisions qui sont aussi sur Amazon Prime, on a de plus en plus les contenus de nos chaînes françaises sur des plateformes américaines. C'est quand même, sur ce point-là, sans être chauvin, je commence à avoir un vrai souci, parce que ça veut dire que de plus en plus, l'accès au contenu sera complètement contrôlé par des plateformes non françaises et non européennes.
Il y a du gatekeeping exactement comme dans...
Et c'est les gatekeepers qui font la valeur.
Ce dont on parle sur les App Store, où il y a deux App Store qui ont 97% de market share, de part de marché, pardon, je vais parler français. Et le risque est ça, c'est la consolidation des portes d'entrée sur trois plateformes avec...
Parce que ce qui a été dit tout à l'heure sur M6 et TF1, oui, c'est les deux sociétés qui ont décidé, mais ma compréhension, c'est qu'elles avaient quand même assez peur du régulateur, qui certes n'a pas eu besoin d'intervenir, mais il y a toujours cette espèce d'épée de Damoclès. Là, ça sera quand même assez intéressant. En fait, on empêche la consolidation au niveau franco-français, ou en tout cas, elle n'est pas favorisée. Et en fait, ça incite les acteurs qui sont sous critique en termes de taille. On parlait de 500 000 pour la plateforme streaming enfin pour Salto, finalement de devoir passer par des plateformes américaines. Donc c'est là où on se rend compte que le régulateur, en tout cas la régulation, a besoin d'évoluer extrêmement vite pour ne pas être à la traîne de l'évolution et de ces grands chambardements.
Il n'y a qu'un acteur français qui arrive à faire l'inverse, c'est Canal, qui, rappelons-le, est un peu un diffuseur qui, justement, héberge dans son interface des partenaires américains. Par exemple, Paramount ou HBO, etc. ou Apple TV. Donc, voilà.
Mais Canal perd son monopole.
C'est intéressant parce que l'ancien patron d'Apple, de Canal, c'était justement Rodolphe Belmer.
Mais c'est intéressant parce que Canal perd, en fait, son rôle de... C'était le seul à avoir le monopole d'indicateur. Aujourd'hui, on commence à voir.
En tout cas, j'espère qu'ils ont une stratégie multicanal avec du YouTube, de la plateforme propre. En fait, il va falloir se garder des options. Oui. Il va falloir donner des plateformes de contact avec les spectateurs pour pouvoir les rattraper dans les différents tuyaux.
Mais toutes ça, ces plateformes sont américaines. C'est ça le problème. Ouais. Voilà. Allez, on va faire une petite pause. Il est 20h, pile, sur BFM Business et Tech & Co, la quotidienne. Toujours avec Frédéric, André et Lucas. On repart dans une minute pour, encore une fois, commenter toute l'actu tech de ce jour. À tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Le retour de Tech & Co, la quotidienne. Un grand merci d'être avec nous, toujours sur le plateau de Tech & Co ce soir. Frédéric Krebs, qui est président de Krebs & Partners et ancien patron d'Allociné, c'était il y a quelques années. André Losgood-Pietri est là aussi, président du JEDI. Et Lucas Perraudin, le fondateur de AI Partners. Vous savez qu'on évoque souvent l'intelligence artificielle et, on va dire, toutes ces IA qui aspirent le web. Et on évoque souvent, en fait, tout ce qui touche à l'écrit, les sites web de médias qui sont complètement avalés, on va dire digérés par l'IA. Mais il faut savoir que la musique, et on va dire d'une manière générale, tout ce qui touche à l'audio et vidéo, est aussi absorbé par l'intelligence artificielle aujourd'hui. Il faut savoir que, par exemple, le modèle de Yann LeCun est très intéressant. Le world model de Yann LeCun, c'est ça. C'est non pas d'absorber de l'écrit, mais absorber de la vidéo et du son, pour fabriquer en fait une espèce de d'intelligence artificielle qui comprend son environnement et non pas qu'elle se base que sur l'écrit en fait. C'est tout le pari de Yann LeCun d'ailleurs qui est assez intéressant. On ne sait pas s'il va y arriver. Oui, Lucas.
Non, c'est une correction technique, mais ça.
Vas-y, je t'en prie. Moi, je le dis avec mes mots, mais vas-y, explique.
En fait, c'est pour que le modèle trouve lui-même les, qui comprenne le monde tout seul, qui trouve les règles de pourquoi deux choses sont similaires ou dissimilaires. Sans qu'on ait besoin de lui expliquer avec des protocoles d'entraînement. On lui dit ça, c'est un chat, photo de chat. Et puis, 2000 photos de chat avec écrit chat. En fait, on lui montre des photos et le modèle doit déduire ce qu'il y a de similaire et donc en sortir un concept. En fait, c'est des modèles qui conceptualisent. Ça s'appelle des GEPA, Joint Embedding Probabilistique.
D'accord.
Voilà, bon, désolé.
Non, mais c'est pas désolé. Évidemment, c'est très intéressant. Mais ça va mettre du temps avant que ça arrive, tout ça. Et puis, enfin, ce que dit Yann LeCun, c'est que ça va complètement bouleverser la manière dont on va donner de l'intelligence, en fait, à de nouveaux objets. Pourquoi pas la robotique, notamment, parce que c'est vrai que la robotique pourrait être complètement décuplée en termes d'intelligence avec cette innovation. Ce qui est intéressant, c'est que là, c'est Winamp qui attaque, écoutez bien, Nvidia, parce que ben, justement, Winamp a une filiale qui s'appelle Jamendo, qui est spécialisée dans l'accompagnement des musiciens. Ils font la distribution, le marketing, la gestion des droits, etc. Et en fait, ils accusent Nvidia d'avoir pompé en fait tout leur contenu, finalement, sans leur avoir demandé l'autorisation. Une boîte comme ça, Winamp, qui attaque Nvidia, il faut quand même être téméraire, je trouve, pour le faire. Et je voulais avoir votre avis là-dessus. Légitime, évidemment, ce sujet, hein, de se dire, voilà, j'absorbe en fait tout ce contenu multimédia sur le web pour nourrir en fait toute mon IA, sans rétribuer évidemment des droits d'auteur et des sociétés. Ça pose quand même un problème qui commence sur ce sujet. André, allez.
Non, moi je trouve ça hyper intéressant parce que ça va vraiment tester si on peut utiliser des métadonnées, puisque c'est ça que met en avant Winamp, pour démontrer que en fait l'accès libre est différent de liberté totale d'entraîner ces données. C'est-à-dire que ça, il doit y avoir une rétribution à ceux qui ont créé ces données. Et ils font fort, parce que non seulement ils attaquent Nvidia, mais ils attaquent à la fois en Belgique, où ils sont localisés, et aux États-Unis. Donc, ils appliquent une méthode à l'américaine. On y va fort, on montre qu'on est solide. Et moi, je trouve que vraiment, là, il y a un point, parce que l'idée n'est pas de protéger, d'interdire l'utilisation des données, mais de le rétribuer. Il y avait aujourd'hui une réunion avec le président, avec la presse quotidienne régionale, ce qu'aujourd'hui la presse n'a pas réussi à faire par rapport au grand modèle qui aujourd'hui pille, il n'y a pas d'autre mot, le contenu qui est généré et qui fait que de plus en plus aujourd'hui la presse a du mal à justifier parce que la même information va se retrouver très très vite dans tel ou tel modèle. Donc ça va tester et ça va déterminer en fait la manière dont la data va être utilisée. Donc quand on revient sur le sujet World Model dont on vient de parler, ça va peut-être aussi tester la capacité au grand modèle de langage de finalement de voir enfin, les arbres ne vont pas monter au ciel et on va se rendre compte à un moment que la donnée entraînée, labellisée, même industrielle ou il y a une propriété intellectuelle type artistique, ben, elle a une valeur et qu'il faut la retribuer.
Et en gros,
faut que Winamp réussisse sur ce coup-là.
Ouais, oui, il faut que Winamp réussisse.
C'est vraiment une jurisprudence qui va se déterminer par ça.
Ce qui est intéressant, c'est que visiblement, les discussions étaient là avec Nvidia, mais Nvidia n'a pas cédé, n'a pas voulu. En fait, c'est pour ça que donc Winamp attaque finalement Nvidia, parce que Nvidia fait la sourde oreille. On parle quand même de pas mal de contenu, hein. Je crois que c'est 300 000 chansons, 60 000 artistes, et en fait c'est pas, alors ça va pas être Rihanna, Michael Jackson, etc. On va dire que c'est de la musique qui sert pour des films, des pubs, des vidéos sur les réseaux sociaux, des sites internet, etc., etc.
L'enjeu de ce procès, il est, c'est une jurisprudence, hein. C'est en anglais, jurisprudence.
Là, il va avoir des avocats costauds de chaque côté.
Hein. En anglais, on dit c'est une uphill battle, c'est une bataille en montée, hein. Donc, ils vont se prendre des vagues et des vagues d'avocats. C'est un peu la même chose que quand on fait de l'App Store avec Apple et que on va en appel, contre-appel, feinte, voilà, toutes ces feintes de corps, passement de jambes, tous ces trucs-là. Donc là, il faut s'attendre à une bataille monstrueuse. Alors, vont-ils arriver à une jurisprudence? Je sais pas. Après, il y a un autre problème qui est assez fondamental, c'est que d'abord, toute la donnée qui pouvait être aspirée, elle a été aspirée, et que la donnée marginale, incrémentale, elle est relativement faible par rapport au tout le quorum de données qui a déjà été exploité. On parle des modèles de langage. À la fin de la journée, les modèles de langage type LLM Transformer, on arrive à la fin, on prend des mots, on les coupe en petits morceaux et puis on probabilistiquement les mélange. Oui. Bon, ça nous emmènera pas beaucoup plus loin et tout ce que ça pouvait exploiter comme données, ça a déjà été fait. Donc quelque part, cette bataille-là, elle peut servir pour la prochaine vague de modèles, la prochaine vague de données. Est-ce que rétroactivement, ils vont en récupérer la valeur qu'ils ont perdue? Ça va être extrêmement difficile.
Mais comme ils attaquent aux États-Unis, c'est le sujet des damages. En fait, ils visent aussi la compensation pour ce qui a été fait, ce qui ne serait pas du tout le cas en Europe.
Ouais. Parce que ça, c'est assez... Est-ce que c'est pas compliqué à prouver, ça?
C'est dur à prouver et tous les gens qu'ils attaquent sont américains avec des intérêts forts dans le pays. Donc, il faut s'attendre à ce que le chemin soit long, difficile et avec beaucoup de sang et de sueur.
Il y a eu tout un débat dans notre pays sur une toute affaire sur la lenteur de la justice. Là, on parlait de la régulation sur le droit de la concurrence qui ne doit pas être en retard par rapport aux grandes manœuvres sur les plateformes de streaming. Là, la même chose. Aujourd'hui, la lenteur de la justice profite aux gros.
Évidemment.
Ils se disent, on va faire traîner. Ouais. Et on va épuiser nos...
Et puis dans 5 ans, ils disent, voilà, on aura peut-être un jugement définitif dans 5 ans.
C'est un sujet fondamental.
On ne sait même pas où on sera dans 5 ans, dans ce domaine de l'IA.
On n'est qu'au début, là. Enfin, entre la rupture technologique et ce procès-là, là, je veux dire, il y a encore beaucoup de choses à processer.
Avant de donner la parole à Fred, juste, je recevrai Alexandre Sabounjian, jeudi soir, qui est le CEO de Winamp. Il sera sur notre plateau, il va nous expliquer clairement pourquoi il attaque Nvidia. Donc, jeudi soir, dans Tech & Co.
Go, Alexandre.
Ce sera aux alentours des 20h15, quelque chose comme ça. Oui, Fred.
Non, juste un très petit commentaire. Je suis pas un spécialiste des affaires juridiques, mais je crois savoir que le montant du préjudice tourne autour des 16 millions de dollars. 16 millions de dollars.
16 millions de dollars, c'est quoi? C'est une seconde de chiffre d'affaires de Nvidia.
Il y aura plus de frais d'avocat que de frais préjudice.
Mais c'est clair, évidemment.
Ouais. Donc, je pense que.
C'est sûr.
Oui, mais c'est symbolique.
Oui. Enfin, c'est une jurisprudence.
C'est symbolique.
C'est briser un mur, là.
Et Winamp s'engage, en fait, pour tout l'écosystème. C'est là où, en fait, il faut véritablement voir le truc. C'est que, effectivement, leur intérêt à eux, probablement, est pas très important. Parce que ça va leur coûter cher, ça, c'est sûr.
Ça va durer longtemps.
Ça va durer longtemps. Ça va prendre du temps de management, etc.
Bon, on en saura plus, donc, avec le CEO de Winamp, jeudi soir. Ça sera plutôt aux alentours des 20h45, et non pas 20h15. J'aimerais qu'on reste dans ce domaine de la propriété intellectuelle avec un truc qui est en train de se passer qui est énorme. C'est vrai que l'IA rebat totalement les cartes dans le domaine des logiciels notamment. Prenez le cas de Bain & Company, c'est l'un des plus grands cabinets de conseil au monde en fusion acquisition. Ils utilisent l'IA pour copier grossièrement des softwares. Carrément. Et ainsi, rendre compte à ses clients de la pertinence ou non de racheter ces derniers. Nathan Cocampo nous explique tout ça et après, on vous raconte cette histoire qui est incroyable.
Peut-on copier rapidement et facilement ce logiciel avec l'IA? C'est désormais la logique de Bain & Company quand un produit se montre intéressant pour ses clients. À l'aide de l'intelligence artificielle, le cabinet de conseil mobilise ses membres pour faire ce qu'on appelle du vibe coding. Une technique de codage sans coder. À l'aide de prompts et l'IA générative, les consultants de Bain ont créé des centaines de prototypes, des bêtas très simples pour évaluer la complexité des produits visés. Si ces logiciels sont imitables en un temps court, sans trop de difficultés, Bain suggère alors de passer son tour sur un achat. A l'inverse, la difficulté à copier le logiciel montre l'avantage concurrentiel que son code, sa technologie peut avoir. Mais à l'arrivée, le business model des éditeurs de logiciels est remis en cause et les investisseurs se montrent prudents. 20% d'entre eux indiquent à Bain avoir abandonné un deal par peur de cet impact de l'IA sur le secteur. Tout cela sur fond de fort repli en bourse.
Alors évidemment, on va prendre le temps parce que c'est pas que c'est compliqué, mais il faut bien expliquer tout cela. On donnera la parole à Fred et à André parce que j'imagine que vous avez plein de choses à raconter, mais j'aimerais, Lucas, parce que c'est ton métier en quelque sorte, que tu nous expliques tout ça. Moi, j'ai entendu un témoignage d'un gars qui est pas un codeur exceptionnel, qui grâce à Claude aujourd'hui arrive à copier des logiciels qui existent, n'importe quoi. Et après, se servir de la copie qui a été faite par l'IA et non pas de l'original. Ce qui fait que toutes les licences que vous payiez auparavant, bah vous ne les payez plus parce que vous dites à Claude, bah fais-moi ce logiciel d'une manière un peu différente, tu me le reprogrammes et bah comme ça, je l'ai gratuitement.
Ouais, et ce phénomène, il porte un nom, il s'appelle SaaSpocalypse. C'est l'apocalypse.
Après la
RAMpocalypse,
c'est la SaaSpocalypse.
Vraiment, et c'est pour ça que les valorisations. Et là, il y a vraiment deux choses. D'abord, il y a tout ce qui faisait ce qu'on appelle le moat, donc les avantages concurrentiels des éditeurs de logiciels, la difficulté d'avoir accès à des ressources de développement, la bonne compréhension des processus de l'entreprise, l'effet de réseau, plus j'ai d'utilisateurs. C'est un peu difficile de devenir spécialiste dans une entreprise lambda de SAP, de Salesforce.com. Donc il y avait beaucoup de temps pour former les gens, et donc en sortir, il y avait un coup de sortie qui était très fort. Et donc déjà, ce qui se passe aujourd'hui avec l'Agentic, c'est que sans recopier le logiciel, on peut avoir les mêmes fonctions, mais de manière très personnalisée. On n'a pas besoin d'attendre la prochaine release de SAP. On n'a pas besoin de... Alors, en gros, moi, comme j'ai passé beaucoup de temps dans l'Amérique corporate, j'étais chez HP et chez Meta, des SaaS, j'en ai acheté. Les SaaS, et le sales rep, il vient et vous dit, ça va coûter 50 millions, ça va prendre 3 ans et ça va faire ces 5 choses. En fait, ça coûte 150 millions, ça prend 9 ans et ça fait 3 choses sur les 5. Oui, j'ai fait Business Object, SAP, Magento, je les ai tous faits, Salesforce.com, tout ce que...
Ton expérience, en fait, il promet des choses qui ne tiennent pas, ça coûte beaucoup plus cher et ça met plus de temps.
Et c'est parce que fonctionnellement, vous, quand vous avez une entreprise qui est complexe, comme celle dans laquelle j'ai travaillé, vos processus, le software ne peut pas venir se poser sur vos processus. Vous êtes toujours obligé, le software va faire 50% de vos process et vous devez construire des trucs à côté. Avec
après,
des
c'est du sur-mesure.
Avec des Excel, etc. Oui, mais ces logiciels-là, ils ne sont pas faits pour mesure. Ouais. L'Agentic, c'est sur-mesure, c'est un software d'entreprise pour votre besoin, votre façon de travailler. Et puis, si vous voulez changer la façon de travailler, vous n'attendez pas la prochaine release, vous allez changer le contexte. Donc, il y a une plus grande autonomie par rapport à ça. Donc déjà, ça, c'est enlever de la valeur. Et ça ne veut pas dire que les logiciels disparaissent, mais le marché adressable du logiciel, il est en train de fondre à vue d'œil. Et ensuite, dans ceux qui développent des logiciels, on se dit effectivement, comme on est en train de le dire, en plus, si je demande à un assistant de coding de le faire, donc, en fait, il y a cette ressource qui est extrêmement chère, c'est-à-dire d'avoir des gens qui étaient capables de fabriquer des logiciels par rapport à mes besoins. Je leur expliquais mes besoins et fabriquer un logiciel. Ça prenait longtemps, ça coûtait extrêmement cher. Ben maintenant, ça prend quelques minutes, quelques heures. Et donc, cette barrière-là, elle est tombée. Et donc, maintenant, quand on veut racheter des sociétés, on se dit, ben, est-ce que je pourrais le faire ? Et là, ça n'est que des consultants de Bain qui font du vibe coding. Parce que si on vous met des ingénieurs IA qui font pas du vibe coding, mais du vrai coding et qui utilisent Claude Code et Codex correctement, je peux vous dire que la barrière que Bain a vue de pas acheter, elle est x2, x3, et il reste beaucoup moins de logiciels. Donc il y a toujours des logiciels, il y en a toujours besoin, transactionnellement. Ces logiciels, ils seront plutôt cachés derrière des agents qui vont aller les interroger. C'est-à-dire que les utilisateurs les voient de moins en moins. On va avoir une conversation avec un agent, l'agent va aller chercher l'information dans le logiciel, la ramener à l'utilisateur, la transformer. Donc il y a une intermédiation qui est en train de se faire aussi. Ouais. Donc ça, c'est vraiment, bon, c'est un peu compliqué, mais ce mouvement-là dans le SaaS, il est gigantesque. Il y a vraiment des empires qui sont en train de se faire, de se défaire en ce moment. Bah, on a vu Salesforce.com, par exemple, qui a très vite, le patron a dit, quand il a vu les agents, bah, on se parle d'il y a 2 ans et demi, il a dit, on n'est plus une boîte de software, on est une boîte d'agents. Ça s'appelle Agentforce, parce qu'il a compris que les plaques étaient en train de bouger sous ses pieds, quoi, littéralement. Bon, la transformation, je ne sais pas si ça va aller assez vite pour qu'il puisse...
Mais je trouve qu'il y a un point commun avec le précédent sujet, finalement. Parce qu'on peut se dire que l'IA de Claude qui va faire du vibe coding et créer un logiciel qui va ressembler à un logiciel de Salesforce, par exemple...
Va être même plus adapté à ton besoin que si tu avais acheté Salesforce. Donc, c'est encore plus customisé.
C'est ça. Et il va sans doute s'inspirer de Salesforce, mais un jour, il va avoir des procès partout, finalement, non ?
Oui, mais les bases de code, c'est largement disponible. Enfin, oui. Mais là, pour aller détricoter comment est-ce que le logiciel a créé ça, ça va être très compliqué.
André, impressionnant ça.
Oui, non, mais c'est vraiment la SaaS apocalypse.
Moi, j'imagine une boîte comme Adobe, par exemple. Ça, ça va être terrible.
Adobe, alors, Salesforce, SAP, ServiceNow.
C'est quand même une magnifique opportunité de rebattre les cartes. Je veux dire, aujourd'hui, les grands éditeurs de logiciels étaient quand même essentiellement américains. Donc là, la question, c'est quels vont être les nouveaux empires qui vont se créer.
Va rester des éditeurs de logiciels à terme, c'est ça,
ben, en tout cas, la valeur, d'abord, c'est la preuve par neuf que l'IA est en train complètement de changer la valeur du logiciel. Et donc, ça va migrer vers des choses qui sont difficilement réplicables. Les workflows, les relations clients, la connaissance métier. Donc ça va être ceux qui maîtrisent cette partie-là, celle qui sera pas réplicable, vont avoir une valeur probablement encore plus importante parce qu'effectivement, comme le disait Lucas, on va pouvoir faire en plus des logiciels qui sont beaucoup plus adaptés à chaque process, à chaque et qu'on va pouvoir faire évoluer parce que de plus en plus les organisations évoluent de plus en plus vite. Donc on va devoir et faire évoluer des logiciels qui ne vont plus... le rythme de changement, il ne va pas au rythme des releases, surtout pour des grandes... Donc en fait, ça va accentuer l'accélération des processus, mais ça va aussi permettre de voir où est la vraie valeur. Et je pense que là, pour le coup, la valeur, elle va plutôt revenir vers des gens qui maîtrisent... comme je dis, la donnée métier, les workflows, des choses difficilement réplicables. Je crois que les industriels ont bien fait d'être extrêmement précautionnés sur les données qu'ils livraient, parce que pour le coup, on va pouvoir faire des logiciels sur mesure.
Fred.
Donc moi, ce qui m'intéressait là dans cette info, c'est que c'est tout le travail en fait, parce qu'il faut se rendre compte que Bain, les clients de Bain, ce sont les fonds d'investissement, c'est ceux qui font du M&A, hein, mergers and acquisitions, et ils sont déjà en train de changer ce métier-là, hein, le métier d'investisseur quelque part. Alors il faut pas oublier un truc quand même, parce que quand ces investisseurs demandent à Bain, tiens, fais-moi une due diligence sur telle boîte qu'on est sur le point sur lequel on est sur le point d'investir. Bain, en essayant de répliquer, de cloner en fait la boîte en question, enfin le produit de la boîte en question, il ne répond qu'à une partie du problème. Parce que OK, ils réussissent à refaire un produit, fine. Mais en fait, c'est tout le reste qui est important. Et là, je rejoins ce que tu viens de dire à l'instant. C'est les données propriétaires, elles sont où ? Les données de workflow, elles sont où ? Les process, où est-ce qu'elle est la véritable intelligence ? Typiquement, si moi aujourd'hui, je prends Claude et j'essaie de refaire Uber. Bah oui, je peux refaire Uber. Je peux refaire l'interface d'Uber, mais je serai jamais une réussite comme Uber, parce que j'ai pas l'accès au parc de chauffeurs, j'ai pas l'accès à toute la partie juridique, hein, parce qu'en fait Uber a déploie en fait des forces juridiques dans chaque pays, dans chaque ville.
Ouais, mais regarde par exemple, excuse-moi, je te coupe, tu as un logiciel de compta qui est hyper pointu, que tu payes une fortune parce que il y a très peu d'éditeurs de logiciels qui font ce soft pour toi, parce que tu as un métier bien précis. Si demain tu as une IA qui va te cloner ce logiciel et qui va te permettre de l'utiliser de manière complètement gratuite, c'est pas la même chose.
Alors, il y a une chose, hein, c'est de faire la V0, la première version en fait du logiciel, mais après il y a la maintenance. Parce qu'après, il y a des choses, souvent, l'IA...
Je sais pas, mais est-ce que l'IA fait pas la maintenance
C'est vrai qu'il y a des barrières d'entrée et que tout n'est pas aussi simple. Et ce qui était dit, alors pour vraiment le vivre au jour le jour avec des grands groupes, c'est littéralement ce qu'on fait, c'est la capacité à comprendre un objectif business, qu'est-ce qu'on essaie de produire avec le business, où sont mes sources de données et quelle est ma logique de réflexion. Si je suis capable de comprendre ça et de le mettre dans un flux, dans un agent et pas dans un logiciel, je gagne à tous les coups. parce que en gros, je fais quelque chose qui correspond exactement à la façon de travailler de l'entreprise, et en plus quand l'entreprise va bouger, qui est modulaire, qui est pas monolithique comme un logiciel, qui a des cycles de release qui sont... On parle souvent de AI speed versus human speed, donc l'agent il va à la vitesse de l'IA et le logiciel va à la vitesse de l'humain. Donc ça c'est là on gagne. La bonne nouvelle, c'est que ça multiplie la demande de logiciels. Parce que si aujourd'hui je suis Essilor, j'ai besoin de mon propre logiciel pour mon propre processus, je suis Saint-Gobain, je suis Orange, je suis Péchy, je suis qui vous voulez, et ben à un moment je vais pouvoir développer ma propre pratique logicielle interne. Et donc on a ce qu'on appelle des pratiques agentiques qui sont en train de se monter, où on a des équipes qui savent fabriquer des agents en interne. Et ça fait qu'ils achètent beaucoup moins de licences des logiciels sous-jacents. Mais par contre, il y a du travail, il y a énormément de travail à fabriquer toutes ces choses-là, à les maintenir, à les faire évoluer. Donc c'est créateur d'emplois et la demande de logiciels et de code, elle explose. On croit que les codeurs ont plus de jobs. Moi, tous les codeurs que je connais, y compris ceux qui travaillent pour moi, et j'en recrute beaucoup, ils ont plus de travail avec l'IA qu'avant l'IA. Parce que maintenant, leur niveau de productivité, le niveau de demande, le niveau de personnalisation de ce qu'ils produisent, il est exponentiellement plus élevé.
Après, il y a une notion d'architecte. De plus en plus des architectes dont on va avoir besoin et qui connaissent bien les
processus. Interopérabilité, maintenance dans le temps, toutes ces choses-là.
Et l'autre question, c'est on a eu pendant longtemps, finalement, un outsourcing complet vers des sociétés de logiciels. Je pense qu'en t'écoutant, il va y avoir aussi une internalisation de ces fonctions parce que ça devient clé pour optimiser les processus. On n'a surtout pas envie de le déléguer à l'extérieur.
C'est la sauce secrète qu'on va internaliser et automatiser.
Passionnant en tout cas ce sujet. Et on en est qu'au tout début de la frise chronologique, c'est ça qui est dingue.
Si tu peux me déléguer quelques-uns de tes trucs, ça m'intéresse. Moi aussi, je suis en train d'internaliser.
Mais écoutez, dans 5 minutes, vous allez pouvoir discuter en antenne sur tous ces sujets sans aucun problème. J'aimerais qu'on évoque, allez, il nous reste quelques instants, cette initiative, en tout cas cette volonté. Ça a été annoncé par le Premier ministre Sébastien Lecornu. Une date pour introduire des cours d'IA au lycée. Alors, quand je dis des cours, c'est une heure de cours par semaine, à partir de la seconde. Ça commencerait à la rentrée 2027, et je voulais avoir vite fait votre avis là-dessus. Tarte à la crème, ou est-ce que, véritablement, c'est une très bonne idée? Ça aurait dû être fait depuis des années. Quel est votre point de vue? Tiens, André.
Alors moi je trouve l'idée est quand même très bonne et très habile.
Je trouve que c'est une très bonne idée aussi.
Et très habile parce que en plus on fait passer le message, on veut pas juste les entraîner à utiliser l'IA, mais on veut développer une capacité justement d'architecte. Donc il y a cette notion sous-jacente d'esprit critique,
etc. De dompter l'IA et non plus d'être, absolument, on va dire, une espèce de vassal, quoi.
L'honnête homme l'honnête femme du 21e siècle.
C'est ça.
Donc c'est voilà, je suis sûr qu'il va y avoir certains qui vont dire ça y est, c'est les lumières à réappliquer à l'éducation nationale. Après le défi, comme toujours chez nous en France, c'est le décalage. Le risque de décalage entre grande annonce et exécution, surtout dans un contexte où il n'y a déjà pas beaucoup d'heures de sciences et technologies. Donc, est-ce que ça va être en concurrence avec les cours de maths, de physique, de codage? Je ne sais pas. Donc, l'exécution va être clé. Donc, les attentes sont là.
Fred, et après Lucas.
Moi, je salue l'initiative, évidemment. Par contre, je pense que c'est peut-être pas la meilleure façon de le faire. Parce que là, ça va être cantonné, donc une heure par semaine. On va dire c'est un bon début, mais c'est pas suffisant par rapport à l'enjeu.
Enfin, ça fait quand même 40, je sais pas quoi, ça fera faire 40 heures, quoi, à peu près. Ou
c'est, 30... c'est ça, bon, un peu moins.
On peut en dire, des choses, hein. Enfin, mais, c'est pas mal quand même.
Moi, ce que j'aurais trouvé vraiment intéressant, c'est d'injecter des cours d'IA, enfin des cours d'IA, des heures d'IA au sein même des cours principaux. Français, maths, histoire géo, physique, etc. Là, j'aurais trouvé en fait un terrain de jeu qui aurait été beaucoup plus intéressant encore, parce que c'est en fait c'est ça le vrai sujet. C'est que j'ai mon fils qui rentre de Chine, hein, il a 16 ans, il a fait un truc, enfin il a découvert en fait ce que c'était qu'une nation entière qui a compris exactement l'impact de la technologie et l'impact positif de la technologie. Et c'est pas juste un vœu pieux ou un délire, hein. Il est revenu enthousiaste du truc parce que il s'est dit, ah oui, j'ai compris ce que c'était que l'IA pour telle chose, et c'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui il faut embrasser cette techno. Je pense qu'on peut pas reculer, on peut plus reculer, parce que le monde entier en fait y va, et je pense qu'il y a de très bonnes choses en fait à en retirer, et donc il faut que ça infuse dans tous les cours que peut avoir en fait.
Au lieu d'avoir une heure, j'allais dire bête, toutes les semaines, ça aurait été bien d'en parler en fait dans chaque matière,
c'est ça,
et dire comment utiliser cette IA.
Au lieu d'avoir un ministre de l'IA, on devrait avoir un peu d'IA dans tous les ministères.
C'est ça.
C'est un peu le, c'est la technologie transversale par définition.
Exactement.
Tu as tout à fait raison,
Lucas.
C'est une excellente initiative. L'IA, c'est une force inarrêtable qui a déjà fait son chemin dans tous les lycées, les collèges, les universités de France. Oui. Nous, on embauche des ingénieurs qui sont IA natifs, c'est-à-dire qu'ils pensent comment résoudre mes problèmes d'éducation ou ce que je dois faire avec l'IA déjà. Le diable est dans les détails. On ouvre cette fenêtre, il faut qu'il y ait le bon contenu dans cette fenêtre. Pas comment s'en servir, mais comment ça marche. Quels sont les biais, qu'est-ce que l'IA peut faire et qu'est-ce que l'IA peut pas faire, et comment avoir une meilleure collaboration avec l'IA à l'avenir et en garder un esprit critique, ça va être fondamental. Voilà, donc la fenêtre est bonne, l'intention est bonne, l'exécution, comme vous l'avez dit, c'est important, mais c'est une force inarrêtable qui est déjà dans l'air qu'on respire, donc c'est important de le faire.
Ouais. Une petite heure aussi concernant les réseaux sociaux à partir du collège, ça serait une bonne idée.
J'allais le dire, on aurait dû le faire avec les réseaux sociaux.
Ouais.
On aurait peut-être
plus jeune, plus tôt, je pense.
On a trop attendu pour les réseaux.
À partir de la sixième. Ouais. L'IA à partir de la seconde, c'est bien, mais je pense qu'il aurait fallu aussi avoir une heure sur les réseaux sociaux pour sensibiliser tous les jeunes à ce fléau, car c'est un fléau quand même. Merci beaucoup à tous les trois. Voilà, passionnant débrief. Merci à Lucas Perraudin. Lucas Perraudin, fondateur de AI Market. AI to Market, pardon. Je suis obligé de lire ton t-shirt pour bien te présenter.
Merci. Elle est bonne lunette correctrice.
Ça fait ATM, c'est bien. ATM.
ATM. Merci à André Lochgut-Pétry, évidemment, le président du Jedi, et Frédéric Krebs. Merci à toi, Fred, président de Krebs and Partners. Et vous restez avec nous. On a encore une petite demi-heure à passer ensemble dans Tech & Co, la quotidienne. On va s'intéresser à cette start-up qui partage son temps entre la Silicon Valley et Paris. Elle s'appelle Genesis AI et elle essaie de donner de l'intelligence aux robots. On va tout nous expliquer. Et puis après, on parlera de ce géant de la lecture numérique, Caféine, qui, grâce à des acquisitions, veut devenir tout simplement le Spotify de la presse numérique. En gros, vous donnez 10 euros par mois, peut-être un petit peu plus, et vous avez accès à toute la presse payante en illimité. On recevra le patron de Caféine tout à l'heure. Voilà, petite pause, et juste après, c'est Léa Benaïm qui nous rejoint pour le Tech Flash, comme chaque soir. Merci d'être là, et à tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne Tech Flash.
20h31, merci d'avoir choisi BFM Business et merci d'être fidèle à Tech & Co, la quotidienne, chaque soir, radio, télé, on est en direct bien sûr, mais ensuite les replays, les podcasts qui vous attendent. Et comme chaque soir à la même heure, il est temps de retrouver le Tech Flash, un condensé de l'actu tech du jour. C'est avec Léa Benaïm. Bonsoir Léa.
Bonsoir François et bonsoir à tous. À la une, Meta lance ses premières lunettes connectées sous sa propre marque. Jusqu'ici, le groupe s'appuyait sur Essilor Luxottica avec les Ray-Ban Meta ou les Meta aux clés. Mais cette fois, seul le nom de Meta apparaîtra sur les montures, même si la fabrication reste assurée par le groupe franco-italien. Trois modèles sont disponibles dès aujourd'hui à partir de 309 euros, soit 100 euros de moins que les précédents. Également dans l'actualité, Winamp porte plainte contre Nvidia. L'ancien roi du MP3 accuse le géant d'avoir utilisé sa base de données musicales pour entraîner ses outils d'IA, et ce, sans autorisation. Après un premier recours sans succès en Belgique, où se trouve son siège social, Winamp passe désormais à l'offensive aux États-Unis et réclame jusqu'à 150 000 $ de dommages et intérêts par chanson.
Et dans l'actualité aussi, Léa, vent de panique chez Waymo. Les robots taxis n'arrivent pas à gérer les travaux sur l'autoroute, ce qui est un problème quand même.
Oui, cela a entraîné une décision radicale. Plus de voies rapides jusqu'à nouvel ordre. Ça fait suite à plusieurs incidents survenus ces dernières semaines où des robots taxis ont roulé sur des portions d'autoroute fermées pour travaux. Waymo a rappelé au total plus de 4000 véhicules pour les reprogrammer. En Europe, c'est un feu vert pour l'euro numérique. Le Parlement a validé aujourd'hui ce projet de monnaie virtuelle porté par la Banque centrale après 6 ans de négociations. Objectif, réduire la dépendance de l'Europe à Visa et Mastercard et renforcer sa souveraineté dans les paiements. Le lancement est prévu pour 2029. Et enfin, mauvaise nouvelle pour les joueurs sur PlayStation. La PS6 pourrait être repoussée à 2028, voire 2029, selon un rapport. En cause, la crise de la RAM provoquée par l'IA. Une situation qui a déjà poussé Sony à augmenter les prix de la PS5 et la PS5 Pro, aujourd'hui vendue à plus de 900 euros en Europe. Et pour finir, je vous donne rendez-vous ce soir à 22h30 sur BFM Business pour Tech & Co Business, votre rendez-vous en compagnie de Frédéric Simotel. Et au programme ce soir, SpaceX qui s'est offert la semaine dernière Cursor pour 60 milliards de dollars. On écoute un extrait.
Et ce qu'on voit, c'est que Microsoft, OpenAI, Anthropic et maintenant SpaceX sont les quatre qui sont dotés à la fois d'un LLM et d'un environnement derrière. Donc Microsoft avec GitHub Copilot, OpenAI avec Codex.
Ouais. Qui est plus un agent peut-être que Cursor, qui est plus l'environnement global.
Oui, mais chacun, justement, c'est là où c'est intéressant. Chacun a un peu ses paradigmes différents ou ses approches un peu différentes. Et on verra bien. Moi, je pense que c'est ça qui est excitant, c'est que les approches ne sont pas juste je copie ce que fait l'autre. Voilà. Et Anthropic, bien entendu, avec Claude Code. Et donc SpaceX arrive, SpaceX avec XAI, Grok, etc.
Slash XAI, ouais.
Ah oui, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que ça devient un acteur qui arrive sur la scène parmi ces quêtes-là. Et je dois reconnaître quand même que le calendrier avec l'IPO de SpaceX est fabuleux. Oui.
Voilà, et pour retrouver Tech & Co Business, il suffit tout simplement d'aller sur la plateforme de BFM Business. Il est 20h35, on va parler robotique avec mon invité tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne, la start-up.
Théophile Gervais est avec nous, bonsoir Théophile.
Ça prend ça.
Vous êtes le cofondateur et président de Genesis AI, qui est une société robotique full stack internationale. Vous êtes basé à Paris, mais aussi à San Carlos, et vous développez des robots tout mignons, alors qu'ils sont sur des grosses roues. J'ai l'impression, ils marchent pas comme Figure AI ou Optimus d'Elon Musk, mais malgré tout. Ils sont là pour exécuter des tâches. Expliquez-nous un petit peu ce que vous faites et notamment présentez-nous Neo, c'est comme ça qu'il s'appelle ?
Inno,
pardon. Allez-y.
Oui, on crée des robots généralistes ou par rapport aux robots industriels aujourd'hui qui font plus ou moins la même chose toute la journée. Là, l'idée, c'est d'avoir un cerveau, un robot vraiment généraliste avec un cerveau qui puisse s'adapter à différentes tâches dans différents environnements, que ce soit dans des environnements industriels comme en automobile, aéronautique, dans des labos pharmaceutiques ou éventuellement à la maison. Et c'est le cerveau d'IA qui lui permet de s'adapter à différentes tâches.
D'accord. Parce qu'aujourd'hui, on le voit, le plus compliqué, c'est de donner du bon sens à un robot et apprendre à faire des tâches. Parce que c'est vrai que tous les robots qu'on voit, on était encore à Vivatech la semaine dernière, vous regardez les robots Unitri, ils sont superbes, ils font des trucs incroyables. Mais il y a quelqu'un qui les télécommande derrière, ou alors ils sont programmés pour faire une tâche. Mais ils n'ont aucune intelligence. Vous, l'idée, c'est d'arriver à faire du hardware, mais aussi de donner une espèce de comment dirais-je, de savoir-faire à un robot, c'est ça ?
Exactement. Je pense que ce qui marche vraiment aujourd'hui en robotique, c'est la locomotion, donc avoir un robot qui marche, ou la navigation, faire une carte et se balader dans une scène. Mais ce qui ne marche pas encore, c'est la manipulation. Donc utiliser ses mains pour interagir avec l'environnement, et c'est vraiment comprendre l'environnement et pouvoir interagir avec qui est la difficulté aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on se penche dessus depuis le début de la boîte.
Et alors comment arrivez-vous à arriver à faire ça, en fait, parce que on le voit, on a des boîtes chinoises comme Unitri qui ont du mal, etc. Comment arrivez-vous à donner ce début d'intelligence au robot ?
On a sorti il y a un mois notre modèle Gen. D'ailleurs, on avait des vidéos, je ne sais pas si on peut les montrer, mais l'idée est d'avoir un modèle vraiment généraliste qui puisse s'adapter à différentes tâches dans différents environnements et pouvoir, par exemple, apprendre de l'idée d'apprendre de données humaines où la plupart des données de manipulation qu'on a aujourd'hui, c'est nous, les humains, qui interagissons avec notre environnement. Donc l'idée est d'apprendre de ces données à travers différents environnements pour créer un cerveau généraliste.
En fait, il est piloté par Gen, c'est ça ? Qu'est-ce que c'est que Gen ?
C'est le nom d'un modèle généraliste qui prend une instruction en langage, comme on peut parler vous et moi, et la vidéo de ce que le robot voit, et après contrôle le robot pour lui dire comment bouger ses bras pour résoudre une tâche.
Donc en fait, ce sont des vidéos que le robot, en tout cas que l'IA du robot, va ingurgiter, et après il va reproduire en fait les gestes qu'il a vus sur cette vidéo, c'est ça ?
Exactement, c'est en collectant vraiment des données à l'échelle d'humains qui faisons différentes tâches qu'on arrive à apprendre à un modèle à faire à s'adapter à plein de situations différentes.
C'est hyper intéressant parce qu'on parle beaucoup de Amilabs, la boîte d'IA de World Model de Yann Lequin. C'est un peu son concept, c'est-à-dire que pour que l'IA comprenne en fait un environnement physique, il faut lui montrer non pas que du texte, mais des vidéos avec du son pour qu'elle comprenne son environnement. En fait, vous rejoignez un petit peu son point de vue.
L'idée est que oui, on a vraiment besoin de données physiques pour apprendre un robot à interagir avec le monde physique. Je pense que l'enjeu est vraiment de collecter des données à l'échelle d'humains qui faisons différentes tâches. Et c'est comme ça qu'on apprend un robot à faire des tâches de manière généraliste.
Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il arrive à faire votre robot? Parce que vous êtes tout jeune, hein, vous avez été fondé en décembre 2024. Eno existe déjà?
Eno existe déjà. Pour l'instant, les deux, on a un peu créé trois briques technologiques de manière séparée. On a le modèle Gen qui est un modèle généraliste qui peut faire des tâches comme on a sorti des vidéos de cuisine par exemple où 4 minutes, on a un modèle qui peut préparer une omelette, couper des tomates de manière complètement indépendante en utilisant des outils.
Mais alors attendez, par exemple, je le mets dans ma cuisine, il va arriver à le faire ou est-ce que il faut quand même qu'il ait une cuisine bien spécifique?
Aujourd'hui, il nous faut encore des données pour chaque tâche. C'est quelques heures d'apprentissage pour une tâche donnée dans un environnement donné. Mais l'idée de passer les données à l'échelle, c'est qu'on arrive vraiment à pouvoir avoir le cerveau du robot qui s'adapte à une nouvelle tâche dans un environnement avec le moins d'efforts possible.
D'accord. Donc, il arrive à faire des tâches basiques de cuisine, c'est ça?
De cuisine, on a sorti le modèle est aussi capable de faire des expériences avec des pipettes de manière super précise dans un labo pharmaceutique, par exemple, au millimètre près, ou de câbler ensemble des câbles pour l'automobile ou l'aéronautique, qui est une tâche où il y a 3 millions de personnes qui font ça chaque jour. Et c'est le même cerveau de robot qui fait toutes ces tâches à la fois.
D'accord. Et vous venez d'où, en fait? Comment avez-vous créé cette boîte-là? Et quel était votre objectif au départ?
Je suis français. J'ai rencontré mon cofondateur en thèse sur la côte Est.
Ouais.
Et on a créé la boîte entre Paris et San Francisco. On a aussi un bureau à Londres et à Paris, parce que je pense qu'on a des talents extraordinaires en IA, en robotique, en graphique, dont on bénéficie. Et aussi un vivier industriel assez important en Europe. Et la Silicon Valley, parce que c'était nécessaire pour l'ambition de la boîte, et c'est quand même le centre de l'IA aujourd'hui.
C'est intéressant. Et alors, vous en êtes où? Donc là, la prochaine étape, c'est quoi pour Genesis AI?
Là, on a sorti notre modèle, notre robot Eno, qui est notre première plateforme généraliste, et aussi notre simulateur, qui est la manière avec laquelle... un des problèmes de la robotique aujourd'hui, c'est qu'on itère à la vitesse du monde réel, qui est très lent et qu'on ne peut pas paralléliser. Donc, créer des mondes virtuels, c'est ça qui nous permet d'évaluer le robot à travers des centaines de milliers d'environnements en parallèle.
En fait, vous créez des jumeaux de ce robot, c'est ça, des jumeaux numériques, c'est
exactement,
ça?
Exactement, des centaines de milliers de jumeaux numériques du robot pour qu'il puisse s'améliorer tout seul. Donc, on a sorti ces trois briques, et là, la prochaine étape, c'est d'amener Eno dans des premiers environnements industriels. Donc, on est en train de créer des partenariats avec des industriels, que ce soit en automobile, aéronautique, pharma. Et la prochaine étape, c'est d'avoir Eno dans des environnements industriels d'ici la fin d'année.
Vous êtes persuadé que la robotique, les robots vont arriver partout, dans l'industrie, mais aussi, pourquoi pas, à la maison? C'est une certitude pour vous?
Je pense qu'à terme, oui, c'est une certitude. On aura des robots à travers tous les endroits où il y a des humains, il y aura des robots aussi. Et il faut que ça soit un futur positif pour tout le monde.
Quand vous voyez, je parlais de Unitree, mais quand vous voyez par exemple Figure AI qui lève beaucoup d'argent, Optimus avec Tesla et Elon Musk... Vous avez quand même des armes pour vous battre, parce que j'imagine que vous n'avez pas la trésorerie de ces boîtes-là. Vous avez quand même des armes pour vous battre?
On a des compétiteurs.
Tout est à construire, en fait, aujourd'hui. C'est-à-dire que le futur roi de la robotique n'est peut-être pas encore né, ou ça peut être peut-être.
Je pense qu'on est encore très, très tôt dans cette vague. Il y a des compétiteurs. J'ai beaucoup d'admiration pour les entrepreneurs et en Chine et dans la Silicon Valley, qui sont super ambitieux. Et je pense que tout est encore à jouer. Où on a commencé il y a à peine 15 mois et on a sorti et le modèle et le simulateur et le robot ont dépassé l'état de l'art dans certains sens. Et donc, on pense que c'est le début de la course et on est dedans.
Quand vous dites, quand on voit Eno, on se rend compte qu'il n'a pas de jambes tout à l'heure. Il fonctionne avec un système de roues. Pourquoi avoir choisi ce point précis?
C'est une bonne question. Je pense que la partie la plus importante d'un robot humanoïde, c'est que les bras et les mains soient humains. Donc, avoir 5 doigts et les mêmes degrés de fonctionnalité que les mains humaines.
Et il a un torse aussi, il a une petite tête, je crois.
Et on n'a pas besoin de tête, en fait, parce qu'on n'a pas de cerveau. Donc, à part les bras et les mains, le reste du corps n'a pas besoin d'être humain. Et la plupart des industriels préfèrent un robot sur roue parce que c'est plus safe et plus facile à déployer.
Il a une petite tête, en fait, on peut imaginer, après c'est de l'anthropomorphisme, mais on se dit que le dessus, en fait, de son torse...
Il y a quand même une caméra...
Ça fait un peu une petite tête, quoi, en quelque sorte. Et demain, la prochaine étape pour vous, c'est quoi? C'est donc de commencer par l'industrie, et puis après d'arriver, pourquoi pas, dans le monde du domestique, et d'avoir un robot à la maison.
Et éventuellement peut-être les services dans des hôtels, des hôpitaux, restaurants, et éventuellement à la maison.
Ça coûte cher, non, tout ça?
Pas tant que ça.
Vous avez déjà une idée de ce que ça pourrait coûter dans quelques années, un robot et puis la question subsidiaire, j'ai envie de vous poser, comment il va apprendre en fait? Parce que finalement, chaque robot, demain, quand on l'aura à la maison, il aura des tâches bien spécifiques.
Sur ce que ça va coûter, je pense qu'on en parlera quand on sort le robot en fin d'année pour le déploiement commercial. Mais comment il va apprendre? L'idée, c'est vraiment de passer les données à l'échelle. Donc, c'est utiliser des données d'humains à travers plein d'environnements pour avoir un modèle vraiment généraliste en passant ces données à l'échelle.
D'accord.
De la même manière qu'on a pu le faire pour les modèles.
C'est-à-dire qu'il ne sera pas obligé d'apprendre quelque chose que je lui montrerai quand il arrivera à la maison, en fait.
Exactement. C'est comme le Cloud Code aujourd'hui où une nouvelle base de code, nouveau problème, ça marche sur ce nouveau problème sans avoir besoin d'être entraîné sur ce problème. Parce que les robots en arriveront là dans les prochaines années.
Vous parliez tout à l'heure de l'excellence française dans l'IA. Vous, justement, c'est pour ça que vous êtes basé aussi ici en France. C'est parce qu'on a un vrai savoir-faire.
Je pense qu'on a des talents extraordinaires en IA, en robotique et en rendu graphique aussi, et en simulation physique. Donc c'est pour ça qu'on est basé là en partie.
Très bien. Bah écoutez, formidable. Ça donne envie en tous les cas de découvrir la suite de tout ça. La prochaine étape pour Genesis AI, c'est quoi?
Et la prochaine étape, c'est des partenaires industriels en automobile, aéronautique et pharma, entre autres. Donc, si vous voulez bosser ensemble sur les prochaines années, on aimerait entendre parler.
Vous recrutez en ce moment?
On recrute aussi beaucoup en IA, robotique et graphique, à Paris et ailleurs.
Et levée de fonds bientôt prévue?
On lève toujours en start-up.
Bon, bah, très bien. Bah, merci beaucoup, Théophile Gervais. On va vous suivre de près. Et la prochaine fois que vous venez sur le plateau de Tech&Co, venez avec Inno, ça serait cool.
Ça serait cool, avec plaisir. Merci François.
Eh bien voilà. Voilà, il y a de très belles initiatives françaises dans le monde de la robotique. Théophile Gervais, cofondateur et président donc de Genesis AI. Et tout de suite, direction la rédaction de BFM Tech.
Tech&Co, la quotidienne, la chronique BFM Tech.
Et oui, dans quelques mois, il y aura peut-être un robot sur ce plateau, Salomi.
Si tu fais des omelettes, ça me va.
Oui, moi aussi, ça me va. Ça serait pas mal, en effet, s'il en met pas partout dans la cuisine, parce que voilà, il faut que ça reste propre. Bonsoir Salomé. Salomé Ferrari, donc journaliste à BFM Tech. Et si le futur du jeu vidéo n'était plus vraiment une console, mais un PC déguisé en console? Et surtout, seriez-vous prêt à payer plus de 1000 euros pour ça, Salomé? Parce que ça coûte un peu cher.
Un petit peu, effectivement. Et c'est d'ailleurs la question un petit peu qui agite le monde du gaming, hein, parce que l'entreprise américaine Valve revient sur le devant de la scène avec une toute nouvelle version de sa Steam Machine, un appareil qui est vendu comme un PC-console. Alors l'idée est assez simple sur le papier, un boîtier branché à la télévision qui est fait pour fonctionner comme une console classique, mais qui reste un véritable ordinateur sur lequel on peut faire tourner aussi des logiciels assez traditionnels. Sauf que ce retour n'a rien d'anodin, parce que Valve avait déjà tenté l'expérience entre 2015 et 2018 avec une première version de la Steam Machine qui avait été vite abandonnée faute de ventes suffisantes. Alors à l'époque, le public n'avait pas vraiment adhéré. Trop complexe, trop cher et surtout pas assez clair face à des consoles très implantées comme la PlayStation ou la Xbox. Alors aujourd'hui, Valve retente sa chance, et là le contexte a un petit peu changé, parce qu'on a eu le Steam Deck, donc la fameuse console portable qui a rencontré un véritable succès en 2022, avec des millions de unités vendues. Et surtout, Valve, puisqu'il fournit à la fois le jeu et le matériel pour y jouer, donc ça pourrait un petit peu redonner confiance à l'entreprise pour réinvestir les salons des joueurs.
Voilà, et pour les vieux joueurs comme moi, Valve c'est quand même Half-Life.
Exactement.
Si t'as connu ça, mais c'est un jeu incroyable, un first-person shooter incroyable. Mais est-ce qu'un joueur moyen a vraiment envie d'un appareil hybride à plus de 1000 euros, Salomé, quand une console classique coûte déjà moins cher? Alors même si le prix de la PS5 a un peu évolué, mais c'est quand même moins cher.
Oui, c'est ça. Bah, les prix font justement un petit peu grincer des dents, hein, tu t'en doutes. Parce qu'en Europe, le prix de base, c'est 1039 euros quand même. Et selon la configuration, ça peut monter à 1400 euros. Donc Valve, lui, forcément, ils ont une explication. Hein, c'est l'explosion des coûts des composants, notamment de la puce mémoire et des stockages. Alors ça, c'est pas propre à Valve. Hein, toute l'industrie est sous tension. Le marché mondial des semi-conducteurs est sous pression, notamment à cause des centres de données et de l'intelligence artificielle. Résultat, les prix s'envolent et toute l'industrie doit s'ajuster. Mais le vrai problème pour Valve, c'est que d'ici 2 ans, on va avoir une nouvelle génération de consoles. Donc des consoles plus puissantes, moins chères et qui pourraient donc faire de l'ombre à la machine. Donc reste à savoir si la Steam Machine, c'est une vraie révolution ou un produit trop cher dans un marché déjà saturé. Valve, en tout cas, joue assez gros sur ce coup-là.
Oui, voilà. Mais ça va être intéressant de voir comment tout ça évolue. Mais à 1000 euros, c'est vrai compliqué. Que ça va être un peu compliqué. Ou alors commencer à casser votre, je sais pas moi, votre, voilà, votre tirelire, tout simplement. Merci beaucoup. Et si vous voulez en savoir plus sur cette console qui sort bientôt, hein, vous allez sur le site de BFM Tech pour retrouver l'intégralité de l'article de Salomé. 20h49, Tech & Co, la quotidienne. On va parler justement de presse numérique avec mon invité.
Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Et j'accueille Laurent Kaiser qui est là. Bonsoir Laurent.
Bonsoir, très heureux d'être là.
Ben, pareillement, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur général du groupe Caféine. Et je pense que Caféine, ça doit dire quand même pas mal de choses à beaucoup d'auditeurs, de téléspectateurs de Tech & Co, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, vous êtes un acteur incontournable de, on va dire, de ces abonnements de presse numérique un peu illimités. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes un peu le Spotify de la presse numérique. Hein, pour une somme forfaitaire mensuelle, on a accès à la presse quotidienne régionale, à des magazines d'actualité, de divertissement, People, etc. etc. Est-ce que j'ai bien résumé ce que vous faites ?
Absolument, c'est très bien résumé.
Ça marche bien, Caféine,
et ça aujourd'hui ? Ça marche très bien, Caféine, aujourd'hui. On est devenu le champion en Europe. On a commencé par être le leader français, et on est devenu le champion en Europe. Donc Caféine, maintenant, c'est 2,5 millions d'utilisateurs. On est présent dans une quinzaine de pays. On a 200 personnes dans l'entreprise, dont la moitié sont dédiées à la tech, le produit et la data. Et on va s'approcher dangereusement des 100 millions de chiffres d'affaires. Donc ça marche très bien.
Donc ça marche. Donc il y a un modèle économique pour la presse. Parce que c'est vrai que s'il y a bien un secteur aujourd'hui qui est décrié, dont on ne donne pas cher pour les années qui viennent, c'est bien celui de la presse.
Nous, on a cette conviction chez Caféine qu'il y a un avenir pour la presse, il y a un avenir pour l'information de qualité, l'information fiable, l'information diverse également. C'est ce qu'on met en avant à l'intérieur de notre offre et de notre produit. Et donc, on essaye à notre échelle de contribuer finalement au financement de cette presse de qualité, de ce journaliste de qualité. Depuis notre création, on a reversé 450 millions à l'industrie de la presse en Europe.
C'est un peu le même modèle économique que Spotify ou pas ? Tout à l'heure, on fait l'analogie, mais ça ressemble ?
Je trouve l'analogie très flatteuse, hein, et on aimerait bien arriver au même niveau que Spotify. Après, je pense que là où l'analogie s'arrête par rapport à Spotify, c'est qu'on ne travaille pas sur le même contenu, finalement, de Spotify. Puisque nous, on est sur du contenu d'information. Il y a un enjeu démocratique avec l'accès à ce contenu, l'accès à la diversité. Donc, ce qui fait qu'également dans l'expérience utilisateur qu'on a créée chez Caféine, et on a dû mettre en place également dans nos algorithmes de recommandation, on a dû mettre en place un certain nombre de choses qui font qu'on se différencie finalement du modèle Spotify. Là où on s'inspire du modèle Spotify, c'est d'être capable d'accéder à un seul et même endroit de façon simple, en illimité, à toute une série de contenus, et nous, c'est spécialisé dans l'information fiable et diverse.
Alors, vous avez pris la parole chez nos confrères de la Tribune Dimanche, qui excellent magazine qui fait partie de notre groupe.
Absolument.
Aussi, ouais. CMA Média, hein, dont fait partie BFM Business, pour évoquer la presse et l'intelligence artificielle. Absolument. Notamment, qu'est-ce que vous vouliez dire dans cette tribune ?
Alors, nous, ce qu'on voulait dire dans cette tribune, c'est notre constat, c'est que finalement, l'information est disponible facilement maintenant, très très facilement. Et donc, le vrai enjeu sur cette information, c'est le discernement. Comment on arrive à faire la différence entre une information fiable, vérifiée, un travail journalistique, avec une information qui peut être une information fausse, ce qu'on appelle une fake news également, ou une information... pas d'information, du contenu qui n'a pas une information fiable journalistique. Et donc, ce qu'on voulait mettre, nous, en avant, c'est dire il faut faire attention. Le contenu est disponible, le contenu est encore plus facilement digérable et disponible sur les plateformes d'intelligence artificielle, avec l'IA, mais par contre, ce contenu est mélangé avec tout un certain nombre de contenus, et donc, il perd parfois sa valeur. Et donc, nous, notre conviction, c'est qu'il faut être capable de, déjà, expliquer quand le contenu a été créé et travaillé à base d'intelligence artificielle. Le deuxième point, c'est mettre en avant le contenu et les marques qui prouvent la qualité du contenu qui est ressorti par l'intelligence artificielle. Et le troisième point, c'était d'avoir des sources diverses utilisés par l'intelligence artificielle pour permettre la diversité des opinions qui sont essentielles pour nos démocraties.
Parce que vous, en fait, vous agrégez le meilleur de la presse. Donc, une presse, on va dire, dont l'info est vérifiée, dont c'est le métier, avec des rédactions et des vrais journalistes.
Absolument.
Okay. C'est une presse payante.
C'est une presse payante et Café n'est payant.
Et Caféine est payant.
Et ça doit être
bien
payant.
Sûr. Mais est-ce que c'est pas un raccourci un peu trop rapide? Parce qu'on peut avoir aussi de la presse gratuite qui est fiable aussi.
Il peut y avoir de la presse gratuite fiable.
Typiquement, nous, on est un média gratuit. Un média d'actualité radio, télé, et il y a la déclinaison sur le web.
Bien sûr.
Et on est journaliste, on essaie de faire notre job correctement.
Bien sûr, absolument. Mais d'ailleurs, on a également cette presse gratuite fiable à l'intérieur de Caféine. Et donc, on essaye de mélanger cette presse gratuite fiable et puis cette presse payante également. Et en fait, il faut arriver, et ça c'est notre conviction, dans un seul et même plateforme, de réunir cette presse de qualité. Donc, c'est pas nécessairement le prix de l'abonnement qui donne la valeur du contenu, ça on est convaincu.
Et que pensez-vous de ces grincements de dents aujourd'hui de la part de certains éditeurs de médias qui reprochent en fait aux géants de l'IA d'aspirer toutes les données, toutes leurs données, pour après les recracher sans payer quiconque, sans droit d'auteur, etc.
On a exactement la même bataille que ces groupes médias, parce que nous on paye pour le contenu. Hein. Je vous l'ai dit, on a reversé 450 millions depuis notre création, on paye. Et c'est important de payer pour continuer à financer la production de ce contenu créé par des journalistes. Et donc, on a la même bataille que ces dirigeants de médias. Il faut payer pour le contenu de qualité si on veut qu'on continue à créer du contenu de qualité.
Est-ce que le modèle économique est tenable aujourd'hui? Vous gagnez de l'argent chez Caféine?
On est profitable depuis une dizaine d'années.
Ouais. Donc, il y a un modèle.
Donc, il y a un modèle économique. C'est ce modèle économique d'ailleurs qui nous a permis nous on a eu aussi dans cette stratégie chez Caféine de faire une consolidation du marché. Donc on a fait 5 acquisitions en à peu près 6 ans, donc presque une par an,
oui.
Dont la dernière en date, celle de notre principal concurrent européen, qui est une société qui s'appelle Ridley,
norvégienne je crois, hein, c'est
qui
ça
était suédoise.
Suédoise,
et on a récupéré toutes les activités en dehors des pays nordiques dans cette opération. Et donc on a créé justement le leader en Europe. Et donc on s'est servi de cette profitabilité, on avait cette conviction-là forte qu'il fallait avoir un modèle viable et stable pour aller consolider le marché et rendre un ensemble de plus en plus grand en termes de taille, puisque c'est une question de taille. L'enjeu est d'arriver à une taille critique pour avoir de plus en plus de moyens d'investir dans la technologie, dans les contenus et dans le marketing pour faire connaître ce service à des millions d'utilisateurs qui ne sont pas encore au courant.
On parle d'IA, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Est-ce que l'IA, finalement, c'est un outil pour faire découvrir en fait tout ce que... Tout ce qui est écrit en fait sur Caféine, par exemple, je prends un article de Paris Match. Est-ce que je sais pas si vous avez Paris Match, c'est un exemple
Paris
parmi
Match,
d'autres, ou la PQR, est-ce que je peux le retrouver d'une manière vocale, par exemple? Est-ce que vous travaillez sur ça, sur tout ça?
On travaille beaucoup sur ce sujet-là. Toute une partie de nouveau, on a 100 personnes dédiées à la tech produit data. Donc forcément, on utilise également des outils d'intelligence artificielle pour accélérer nos développements. Ça, c'est un des points. Et on réfléchit aussi à comment on va innover dans notre expérience à l'intérieur de Caféine pour utiliser un certain nombre d'usages qui sont développés par les plateformes d'intelligence artificielle. Donc, on a ce qu'on appelle le text-to-speech. Donc, tout un certain nombre de publications à l'intérieur de Caféine peuvent être écoutées par une voix automatique, d'intelligence artificielle.
Ouais.
Donc ça, c'est un des points qui est relativement simple maintenant à mettre en place. Et on essaye aussi de voir comment on arrive à innover dans la discoverabilité du contenu à l'intérieur de Caféine.
Donc c'est
la découverte du contenu à l'intérieur de Caféine. Et donc on a développé cette fonctionnalité qui est un bon exemple, qui s'appelle À la Une. Et donc on est unique pour ça, mais c'est unique parce que notre proposition et la diversité du contenu qu'on a est unique. Et donc tous les matins, vous avez dans cet onglet À la Une, vous avez un résumé des grandes unes à l'intérieur de Caféine. Vous avez un petit résumé de ces unes pour voir si ce sujet vous intéresse. Et après, vous avez l'ensemble des articles, un article de Libération, un article du Figaro, un article de La Croix, un article de l'Express.
En fait, vous faites comme je reprends un autre exemple, Netflix, qui fait, grâce à ses algorithmes, fait des recommandations de contenu qu'on pourrait voir. Vous éditorialisez, en fait, toute cette multitude de contenus, finalement, dont on peut avoir accès.
Absolument. En fait, on a deux enjeux. On a rendre le produit à la fois extrêmement personnel. Donc, c'est notre conviction qu'il faut que l'utilisateur l'utilisateur fasse un choix à l'intérieur de Caféine pour pas l'enfermer et pour pas lui pousser du contenu. C'est pas notre modèle. On n'est pas un modèle publicitaire, donc on ne cherche pas à pousser le contenu qui fonctionne le mieux. On demande à l'utilisateur qui va s'abonner à Caféine de rentrer dans un parcours. Dans ce parcours, il va devoir faire des choix. Il va choisir les thèmes qui les intéressent, les journaux, les titres de magazines qui les intéressent. Et donc, du coup, son expérience va être complètement personnalisée. Et à partir de là, notre enjeu est de lui faire découvrir tout un certain nombre d'autres contenus, d'articles, maintenant de vidéos. On a aussi également des vidéos à l'intérieur de Caféine qui sont en lien avec ces centres d'intérêt et qui ne seraient pas forcément à aller chercher. Et donc, c'est cette partie de recommandation qu'on met également à disposition de nos utilisateurs.
Dernière question, ça coûte combien Caféine tous les mois ?
Maintenant, on a trois types de forfaits. L'offre simple est à 13 euros. L'offre duo est à 16 euros et l'offre famille est à 21 euros.
D'accord. Voilà. Eh bien voilà, à tester. Caféine, donc. Merci beaucoup, Laurent Kaiser.
Merci beaucoup.
Vous en êtes le directeur général. Et il est bientôt 21h. Ce Tech & Co est terminé. Merci de nous avoir suivis comme chaque soir. La bonne nouvelle, c'est qu'on sera là demain. Demain, mercredi, dès 19h30, les replays et les podcasts de cette émission qui vous attendent dans quelques minutes. Un grand merci de nous suivre, d'être fidèle à Tech & Co. Et à demain, à 19h30.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.